Bonjour, nous sommes des élèves du lycée Adrien Testu au Chambon-Feugerolles, plus précisément les éco-délégués. Les éco-délégués réunissent des représentants de toutes les classes. Nous mettons en place des projets sur le développement durable au sein de notre lycée. Radio Ondaine nous a accompagnés dans des ateliers pour la préparation d'une série de tables rondes radiophoniques avec des intervenants qui agissent au quotidien en faveur de l'environnement. Aujourd'hui, nous recevons Stéphane Porzio, président des Jardins ouvriers de la Varenne, et nous allons découvrir comment est-il possible de cultiver une parcelle de terre en étant éco-responsable. Bonjour Monsieur Porzio, pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour, effectivement je me présente, Monsieur Porzio Stéphane, donc je suis le président des Jardins ouvriers de la Varenne, c'est une association qui est dans le secteur de l'Ondaine. Voilà, on a plusieurs îlots sur la région, voilà comment je peux me présenter.
Vous êtes président des Jardins ouvriers de la Varenne. Quelle est l'histoire de cette association ? Pour qui et pourquoi ont-ils été créés ?
Alors l'histoire de l'association, elle est assez longue parce que donc l'histoire de l'association a commencé en 1961 en gros avec les Houillères de la Loire. Hein. C'était des jardins qui étaient réservés aux mineurs en fait au départ. L'histoire des jardins à Saint-Étienne, elle a commencé avec le père Volpette. Hein, donc parce que comme vous avez pu le voir sur le dossier d'Amis Proches sur lequel on est référencé puisque c'est une commune Roche-la-Molière sur laquelle on a des parcelles. Voilà, donc c'est le père Volpette qui a lancé les jardins ouvriers pour des ouvriers qui étaient en difficulté à l'époque et qui avaient besoin d'avoir un petit peu à manger et un petit lopin de terre pour sortir de leurs habitudes, puisque c'était beaucoup des gens qui travaillaient, pas à l'époque du père Volpette, mais à l'époque des mines, qui travaillaient dans les mines ou dans des usines qui étaient assez noires et assez tristes. Donc les houillères à l'époque avaient mis une parcelle de 200 mètres carrés en gros pour chaque mineur. Voilà. Donc l'histoire commence avec les houillères. En fait, en 1952, si vous voulez, les jardins ouvriers ont été obligés d'être gérés par des associations. Voilà. Ils s'appelaient plus les jardins ouvriers, ils se sont appelés les jardins familiaux. Et en fait, c'est donc des associations qui ont pris les jardins ouvriers en charge. À l'époque, c'était donc les houillères qui géraient les jardins. Et en fait, c'est les houillères qui ont monté une association au sein même des houillères de la Loire. Voilà. Donc c'était... en gros, les techniciens, les agents de maîtrise des houillères de la Loire qui géraient les jardins ouvriers de la région. Voilà. Ensuite, l'association a été créée en 2000, toujours par une personne des houillères, mais qui a souhaité continuer l'association et créer les jardins ouvriers. Donc là, ça s'est appelé le groupement des jardins ouvriers de la Varenne. Voilà, et ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a changé de nom. On s'appelle l'Association des Jardins Ouvriers de la Varenne. Voilà. On s'appelle plus le Groupement des Jardins Ouvriers de la Varenne. Voilà. On a souhaité changer le titre pour être aux communes comme une association sur les communes. Voilà. En gros, voilà l'historique hein, des jardins ouvriers sur la région.
Où sont situés les jardins ouvriers dont vous avez la responsabilité ?
Alors les jardins ouvriers sont situés, donc comme je le disais tout à l'heure, sur l'Ondaine. Donc on est exactement sur 5 communes. On est sur Roche-la-Molière, Le Chambon-Feugerolles, Firminy, Saint-Victor et Saint-Genélaire. Voilà. On a à peu près 16-17 îlots qui sont répartis sur ces 5 communes. Voilà.
En quoi consiste votre rôle de président bénévole ?
Ah ben mon rôle de président bénévole, comme tous les bénévoles, ben... c'est d'être bénévole déjà au départ et de faire fonctionner l'association. Mon rôle en tant que président, c'est de représenter l'association en fait au sein des communautés, des communes, aller voir les maires pour monter les projets ensemble, voir un petit peu comment fonctionnent les jardins et puis surtout prendre la gestion de tous les jardins et faire du mieux que ça se passe quoi. On a mis en place des règlements intérieurs, on a mis en place des choses pour que les jardiniers puissent profiter de leur jardin tout en respectant le règlement intérieur et les règlements qui nous sont mis en place par les communes au sein de nos conventions. Voilà.
Comment fait-on pour avoir une parcelle de jardins ouvriers ?
Ah bah, tout simplement en se rapprochant des communes, donc du Chambon-Feugerolles, de Roche-la-Molière, de Firminy et de Saint-Genélaire. Voilà. Vous téléphonez à la mairie, en général ils vous mettent en contact avec notre association, ou par téléphone ou par mail. Donc le mail c'est jardin au pluriel point la contact@varennes.com. Si vous souhaitez avoir une parcelle, bah, vous rentrez en contact avec nous, vous nous donnez votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone, la commune où c'est que vous êtes et la commune où c'est que vous souhaitez avoir un jardin. Et en général, on rentre en contact avec vous assez rapidement et on vous met en contact avec un de nos responsables, si on a des parcelles de disponibles, bien sûr, parce qu'on n'a pas toujours des parcelles de disponibles.
Quel est le règlement ? Y a-t-il un livret d'accueil ou une charte ?
Alors oui, il y a un livret d'accueil. En fait, c'est un règlement intérieur hein, qu'on remet à chaque adhérent qui prend son adhésion. En fait, quand il prend son adhésion, on lui fait signer un papier comme quoi il a dû lire le règlement intérieur, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, bien sûr, parce que les gens ne lisent pas toujours le règlement. Mais effectivement, on est obligé d'avoir un règlement intérieur. Hein. On ne peut pas se permettre d'avoir des jardins ouvriers et de laisser faire tout et n'importe quoi. Par exemple, sur l'utilisation des produits phytosanitaires, on a eu des réglementations à suivre par rapport aux communes qui nous ont obligés à interdire les produits phytosanitaires. Et c'était une bonne chose, hein, puisque on voulait le faire de nous-mêmes. Mais oui, effectivement, pour respecter des règles, on est obligé d'avoir un règlement intérieur, bien sûr.
Quelle démarche écologique mettez-vous en place dans vos jardins ?
Ah bah, beaucoup. Depuis 5-6 ans, comme je vous le disais là, juste avant, on a interdit complètement les produits phytosanitaires, hein, donc tout ce qui était produits chimiques sur les jardins qui servaient pour les doryphores, les choses comme ça. Donc ça, on y a fait la chasse énormément parce que c'est vrai qu'à l'époque, les gens utilisaient beaucoup les produits phytosanitaires sur les jardins ouvriers. Malheureusement, c'était un peu le système. Les gens s'embêtaient pas trop. Ils voulaient avoir des jardins très très propres. Donc du coup, ils utilisaient les produits pour avoir des jardins qui étaient magnifiques, ce qui n'était pas une bonne chose. Donc on a mis du temps à faire comprendre à tout le monde que les produits phytosanitaires, c'était pas un avantage pour eux, puisqu'ils cherchaient à faire un jardin pour avoir des légumes bio, en quelque sorte, on va dire entre guillemets, hein, parce qu'on peut pas dire complètement bio, mais bio, manger sainement. Et donc du coup, on est allé là-dessus. Ensuite, on a mis beaucoup de choses en place à chaque assemblée générale. Si vous voulez, toutes les années, on fait notre assemblée générale une fois par an. On fait des petites conférences sur le paillage, sur la biodiversité, comment amener de la biodiversité dans ses jardins, ne plus bêcher, passer plutôt à la grenette, des choses comme ça, aller vers des techniques de permaculture. Pas complètement, parce qu'on n'est pas complètement dans la permaculture, si vous voulez, mais on essaye d'aller vers un sens où c'est qu'on respecte de plus en plus la terre et de faire de moins en moins des déserts, des jardins déserts comme c'était avant. Avant, les jardins, c'était n'y a pas d'herbe qui pousse, il n'y a rien qui pousse. Aujourd'hui, on est plutôt dans un aspect différent des jardins. Quoi. Voilà.
Vous souhaitez bannir l'utilisation des produits phytosanitaires. Qu'est-ce que sont ces produits ?
Ah ben ces produits, comme je vous ai dit tout à l'heure, ben vite fait, ben c'était les produits pour les doryphores, hein, surtout, en gros, qui étaient beaucoup beaucoup utilisés. En fait, quand vous avez des doryphores sur les pommes de terre, ben vous êtes obligé de les éradiquer. Donc le seul moyen, ben, c'est de les ramasser à la main. Malheureusement, ben, y a beaucoup de gens qui les ramassaient pas du tout à la main et qui passaient du, je me rappelle plus comment ça s'appelait, du systémique, je crois que ça s'appelait à l'époque. Hein. Voilà. Et donc c'était un produit qui était très très dangereux pour la santé, hein, qui était dangereux au niveau du cancer, de plein de choses. Voilà.
Y a-t-il moins de rendement sans ces produits ?
Alors non, pas du tout. Le seul problème, c'est que faire comprendre à des jardiniers qui travaillent sur des jardins conventionnels, on va dire, c'est difficile de leur faire comprendre que les nouvelles techniques d'aujourd'hui, la permaculture, le respect de la terre, moins tourner sa terre et ainsi de suite, ça met du temps à s'installer, mais ça a autant de bons résultats que des jardins, les jardins d'avant, quoi. C'est tout. Hein. Enfin, ce qu'il faut, c'est leur prouver. Voilà. C'est la difficulté aujourd'hui, c'est de prouver aux anciens jardiniers que les nouvelles techniques marchent autant que les leurs. Et ça met un peu de temps, effectivement, à s'installer, parce que quand on fait de la permaculture, par exemple, sur de la culture sur butte, on va mettre 5 ans à installer la butte. Donc, pendant 5 ans, effectivement, sur cette butte-là, on va pas pouvoir faire grand-chose. Mais pour qu'elle ait un bon rendement, il va falloir effectivement qu'il y ait 4-5 ans de travail sous la terre pour avoir du rendement. Donc du coup, effectivement, ça met du temps, mais ça marche autant que le jardinage conventionnel.
Comment se passer des produits phytosanitaires ?
Alors, comment s'en passer ? c'est compliqué, c'est une question compliquée. Nous-mêmes, si vous voulez, on essaie de faire comprendre à tout le monde que c'est pour leur santé, en fait. Hein. S'ils viennent faire des jardins, justement, c'est pour avoir des produits, comme je vous le disais tout à l'heure, sains est meilleur que ce qu'on pourrait trouver dans des magasins en grande surface et ainsi de suite. On ne sait pas toujours d'où ça vient, comment ça a été traité chimiquement et ainsi de suite. Les traitements qu'il y a eu. Quand on fait son propre jardin, effectivement, on sait d'où ça vient. On sait ce qu'on a mis comme produit. Donc, nous, notre but, c'est de faire comprendre à nos jardiniers et même les gens qui les entourent que les produits phytosanitaires, en fait, c'est une mauvaise chose, quoi. Il n'y a pas plus de rendement avec le produit phytosanitaire. C'est vraiment une idée reçue qui ne fonctionne pas sur les jardins ouvriers, en tous les cas. Peut-être en agriculture, en tous les cas, sur les jardins ouvriers, ça ne fonctionne pas.
Qu'est-ce que le paillage ?
Eh bien, le paillage. Eh bien, le paillage, c'est le fait de pailler ses sols, en fait, et de jamais laisser le sol à nu. Voilà, en fait. Un exemple, le matin, vous avez la rosée. La rosée du matin, elle va arriver, elle va rester, elle va durer une petite heure, une heure et demie, et au bout d'une heure et demie, elle va s'évaporer. Voilà. Si vous paillez, donc, avec de la paille ou du foin, tout autour de votre plantation. Par exemple, vous plantez les tomates, vous les paillez, ce qu'on appelle faire du paillage. Donc, c'est mettre de la paille tout autour, une bonne épaisseur autour des plants. Et ça permet à l'eau d'être récupérée. Donc, comme je vous disais, même la rosée du matin, elle est récupérée. La moindre pluie, si vous voulez, elle est récupérée automatiquement. Et ça permet de garder de la fraîcheur au pied des plants. Donc c'est la technique du paillage. Je pense que beaucoup de gens l'utilisent maintenant, à la technique de paillage, parce que c'est quand même une bonne chose pour économiser de l'eau, surtout.
Qu'est-ce qu'une pompe bélier ?
Alors la pompe bélier, c'est une installation qu'on a installée sur les chambons, sur le chambon Feugerolles, sur le site de la Bargette du Bas. Voilà, c'est une pompe qui a été inventée par les frères Montgolfier. Alors je saurais pas dire la date exacte, hein, c'est dans les années 1800. C'était une pompe qui a été fabriquée par ses frères pour faire remonter l'eau sur les quartiers de Montmartre. Comme c'était en hauteur, si vous voulez, ils avaient une difficulté à faire remonter l'eau dans les quartiers de Montmartre. Donc ils ont inventé cette pompe. En fait, c'est une pompe qui fonctionne sans énergie fossile. Donc du coup, pas d'essence, pas d'électricité. C'est simplement le coup de bélier qui permet à la pompe de fonctionner. Voilà. Donc cette pompe, elle permet de faire remonter l'eau d'une source, par exemple, ou l'eau d'une rivière, sur une hauteur plus importante que celle où se trouve la source. Voilà.
Quand on veut entretenir sa parcelle, quel temps ça prend ?
Oh, ça prend du temps. Entretenir une parcelle, tout dépend si c'est des parcelles de 200 mètres carrés. En gros, il faut y passer entre 1 et 2 heures par jour. Pour avoir un jardin, un bon rendement, il faut avoir au moins y passer 1 heure par jour. Tout au moins pour venir arroser déjà. On n'arrose pas tous les jours, mais effectivement, il faut quand même arroser. On est obligé. Oui, ça demande une heure ou deux par jour.
Comment apprend-on à jardiner ?
Ça, c'est une question. Comment apprend-on à jardiner ? En général, sur nos jardins, beaucoup de gens arrivent et ne savent pas jardiner. Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est justement de mettre les jardiniers en contact les uns avec les autres. Voilà. Donc nous, dans notre association, et dans beaucoup d'associations, je pense aussi, on a décidé de mettre en place, en fait, toutes les années, on fait deux entretiens collectifs pour entretenir les terrains de nos îlots. Voilà, ce qui nous est obligé par les conventions qu'on signe avec les mairies, c'est d'entretenir le terrain et de le tenir en bon état. Donc deux fois par an, on fait un entretien collectif avec les adhérents de l'îlot. Ils organisent cet entretien collectif de 8h jusqu'à midi. En gros, ils font le nettoyage, ils passent le rotofil, ils réparent les clôtures s'il y a réparé des clôtures, ils repeignent les cabanes s'il y a réparé des cabanes. Et ensuite, le temps de midi, on organise un petit barbecue, ce qui permet aux gens de se rencontrer, de se connaître. Parce que c'est vrai que sur les jardins, souvent, on arrive à se croiser, mais à pas vraiment se parler. Parce que moi, je vais venir à 8h, de 8h à 9h, ou de 9h à 10h, et les personnes vont arriver, ils vont juste arriver derrière moi, on va juste se croiser, dire bonjour, et pas vraiment se parler. Donc, il n'y avait pas vraiment de contact entre les jardiniers. Et pour créer ce lien, en fait, donc, on a décidé de mettre en place donc, des entretiens collectifs et de faire des petits barbecues pour permettre aux gens de se rencontrer. Parce qu'apprendre à jardiner, en fait, hein, ça se fait naturellement, en fait. Hein, ça s'apprend avec les gens qui sont sur place, déjà, qui connaissent bien la culture du jardinage. Et puis après, il faut s'enseigner aussi sur Internet. On a beaucoup de techniques sur Internet aujourd'hui qui sont disponibles. Et vous pouvez apprendre à jardiner assez facilement.
En quoi se vivre ensemble dans les jardins ouvriers est-il important ?
Ah ben, il est important pour la convivialité et l'esprit de convivialité justement qu'il y a sur les jardins, puisque à l'époque les jardins c'était quand même un lieu de rencontre. Sur l'histoire des jardins, sur l'historique des jardins, ils avaient été créés quand même à l'époque pour faire sortir les gens de chez eux, mais aussi pour les empêcher d'aller dans les bars et de consommer l'alcool, bien sûr, ce qui était une chose pas très très bonne. Mais il y avait surtout des idées politiques qui circulaient, des idées syndicales. Donc du coup, à l'époque, les houillères, ils essayaient de faire sortir les gens des bars. Et donc, ils leur mettaient des terrains à disponibilité. Voilà. Donc les jardins, c'est un peu un lieu de convivialité, de rencontres différentes, hein, parce qu'on rencontre tout type de personnes, on rencontre des jeunes. Actuellement, on a beaucoup, beaucoup de femmes qui reviennent sur les jardins. Avant, on avait très, très peu de femmes, puisque les femmes venaient uniquement pour ramasser la culture et faire les conserves derrière. C'était un peu comme ça que ça se passait. Aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup de femmes qui viennent elles-mêmes cultiver leur parcelle. Et qui sont très très contentes, puisque à Roche-la-Molière, on a un îlot où c'est que je dois avoir une majorité de femmes sur l'îlot. Quoi.
Est-ce que ça coûte cher de jardiner ? Quel outil faut-il ?
Alors non, ça coûte pas vraiment cher de jardiner. Le départ du petit matériel, ça va être un râteau, une bêche et une pelle. Après, ça revient pas énormément cher. Après, c'est vrai que où il faut faire attention, en fait, le jardinage, souvent les gens ont tendance à acheter des plants, voilà. Donc des plants de tomates, des plants de courges, des plants de courgettes, et ainsi de suite. Alors qu'en fait, on peut partir de la graine dès le départ. Nous, c'est ce qu'on essaye de reproduire sur tous nos jardins et de faire comprendre aux gens qu'en fait, il vaut mieux partir de la graine plutôt que d'acheter des plants chez Botanique ou ainsi de suite. Je donne des noms, mais voilà, divers fournisseurs en fait de plants. Ce qui est un peu dommage parce que ça leur coûte très cher en fait à la sortie. Parce qu'un plant de tomate, ça doit coûter 80 centimes. Si vous en achetez une dizaine, ben, vous en avez tout de suite pour 8 euros, voilà. Et ainsi de suite. Donc, on essaie de convaincre le maximum de jardiniers de partir de la graine. Voilà. Donc, non, ça revient pas très, très cher à la sortie.
Est-ce possible de créer un jardin dans un établissement scolaire ?
Alors, oui, je pense que c'est possible de créer un jardin dans un établissement scolaire. Il y a déjà beaucoup d'établissements qui le font, hein, d'ailleurs. Moi, j'ai ma copine qui travaille sur un établissement privé et ils ont mis une serre en place avec un petit jardin. Oui, je pense que c'est possible à faire. Malheureusement, le problème chez nous à Testu, c'est qu'on est un lieu qui a été gravement pollué en fait à l'époque par une usine de traitement de ferraille, je crois. Hein, c'est un traitement chimique qui était fait à l'époque. Et donc, malheureusement, sur les terrains de Testu, on ne peut pas cultiver. Voilà. C'est le seul problème à Testu, mais il y a beaucoup d'établissements qui mettent cette démarche en place, bien sûr.
Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Pordio.
Eh bien, merci à vous.